Bonjour à chacun, à chacune. J'ai le plaisir ce matin de vous accueillir par une nouvelle magnifique journée radieuse, chaude. Je vous accueille dans des locaux qui sont encore relativement frais, me semble-t-il. Mais rassurez-vous, ça ne va pas rester. C'est des journées qui sont effectivement assez torrides. Bienvenue pour ce temps de culte, un culte où nous voulons ensemble célébrer notre Dieu, où nous voulons ensemble glorifier le Christ, notre Seigneur, et nous mettre aussi à l'écoute de ce Jésus qui a eu cette parole magnifique à l'intention de la Samaritaine, où il lui dit « Si tu savais quel don Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Car celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. On retrouve ce texte dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 10 et suivant. Magnifique parole où Jésus nous rappelle qu'il est celui qui veut étancher notre soif. Alors c'est vrai que je n'ai pas résisté à l'envie de vous partager cette parole alors qu'on vit des journées assez étouffantes et chaudes, mais aussi simplement parce que cette parole est magnifique et qu'elle me fait du bien, et je crois qu'elle nous fait du bien de nous rappeler que Jésus veut étancher notre soif de justice, notre soif de paix, notre soif d'espérance, de joie, notre soif de vie, d'aventure, de plénitude. Alors ce matin, nous sommes invités à venir puiser à la source. Nous sommes invités à venir nous approcher de Dieu, à goûter à cette eau vive qui nous désaltère vraiment. Nous sommes invités à célébrer avec reconnaissance Jésus-Christ, son Fils. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te louons et te bénissons. Tu es celui qui nous accueille ce matin, tu es celui qui nous invite à venir en ta présence, goûter de cette eau que tu as en vue pour nous. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses susciter dans nos cœurs cette envie de venir à toi, que tu puisses ouvrir nos cœurs à ce que nous puissions recevoir toutes les bonnes choses que tu as prévues pour nous ce matin, dans ta parole. Que nous puissions aussi accueillir ta pensée pour nos vies, pour cette communauté. Que nous puissions aussi accueillir et être renouvelés par ton Esprit Saint, pour que nous puissions avancer jour après jour en ta présence et témoigner de cette joie de t'appartenir. Nous te bénissons parce qu'ensemble nous pouvons te louer, t'honorer, te glorifier et nous réjouir de ta présence. Du plus jeune au plus âgé, dans le nom de Jésus. Amen. Au début de ce culte, nous aimerions souhaiter effectivement une bienvenue toute particulière à notre orateur, Claude Bécher, ainsi qu'à son épouse, Elisabeth. Et là, j'aimerais laisser Michel Seret, membre du Conseil de l'Église, nous dire quelques mots.
Merci. Voilà, aujourd'hui, Claude est notre invité pour apporter la prédication, comme il l'a fait déjà au mois de janvier. Mais je vous rappelle que notre colloque, notre assemblée d'église, a voté son engagement pour un poste à mi-temps dans notre église. Au moment de ce vote, qui a eu lieu au mois de juin, 14 juin, sauf erreur, un élément n'était pas encore tout à fait sûr, c'était à quel moment est-ce que Claude serait disponible pour entrer dans son service dans cette église. Et maintenant, ces éléments d'incertitude sont dissipés et nous avons le plaisir de vous informer qu'à partir du 1er novembre de cette année, Claude sera engagé comme pasteur à mi-temps pour l'église de Mérin. Alors, bienvenue Elisabeth, bienvenue Claude.
Eh Et puis nous voulons aussi ce matin souhaiter une bienvenue toute particulière aux enfants qui reprennent aujourd'hui les potes du dimanche. Alors ils sont certainement là, c'est vrai qu'il faut un petit peu les chercher, je pense qu'ils sont au milieu de nous et pas devant, mais je peux les comprendre. Donc soyez les bienvenus les enfants, c'est vrai que aujourd'hui nous vivons non pas le culte de la rentrée, le culte de la rentrée ça sera dimanche prochain, il sera animé par le conseil avec Roger notre pasteur, mais ce matin c'est bien le culte de reprise des potes du dimanche et nous aurons l'occasion effectivement de présenter un petit peu les différents groupes, les moniteurs, de prier pour eux tout à l'heure. Mais avant cela, j'aimerais partager une image avec vous les enfants pour introduire un petit peu ce ton. C'est vrai que, je l'ai dit, nous avons eu et nous avons encore un très bel été avec de fortes chaleurs. Et c'est vrai qu'en plaine, ça a été souvent un petit peu étouffant, il manquait d'air. Tandis qu'en montagne, il fait beaucoup plus frais. Vous savez pourquoi en montagne, il fait plus frais qu'en plaine? Je cherche quelques enfants, mais... Parce qu'en montagne, on voit de grosses machines. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, des grandes machines, là, c'est des grands mâts qui sont plantés dans la montagne avec des grandes pales qui tournent. Vous avez déjà vu ça? Eh bien, en montagne, ils ont la chance d'avoir des ventilateurs géants qui soufflent de l'air dans les vallées pour leur apporter un peu de rafraîchissement. C'est incroyable, non? Qui c'est qui a déjà vu ces machines? Vous savez comment ça s'appelle?
Des distilleries.
Des distilleries? Je crois pas. Oui, des éoliennes, tout à fait. Bravo, c'est des éoliennes. Bon, c'est vrai, je me suis peut-être un petit peu trompé. Est-ce que les éoliennes, elles soufflent de l'air pour rafraîchir les gens? Ça sera à quoi une éolienne, tu sais? Ouais, à faire l'électricité, effectivement. Eh bien, il y a quelqu'un qui a dit, quelqu'un qui est parmi nous d'ailleurs, qui a dit que les chrétiens pouvaient ou devraient en fait ressembler à des éoliennes. Et je vous invite à découvrir un clip qu'Henri Bachet a fait pour Logoscom, qui parle justement de nous les chrétiens qui devrions ressembler à des éoliennes. Je vous laisse envoyer.
L'énergie amour ou la parabole de l'éolienne. Une éolienne est faite pour produire de l'énergie électrique. Ainsi en est-il du chrétien. Il ressemble à une éolienne. Il produit une énergie qui s'appelle amour. L'éolienne ne stocke pas l'énergie électricité pour elle, mais elle la distribue plus loin, dans le réseau. Son énergie va faire tourner des machines, des instruments dans les hôpitaux, les services de transport, de communication, illuminer la nuit de milliers de personnes, etc., etc., etc. Ainsi en est-il du chrétien. Il est appelé à donner un sourire, à donner un espoir à un migrant, à soulager la souffrance d'autrui, à s'engager en société pour l'améliorer, à s'opposer à la corruption. Cette parabole de l'éolienne peut nous aider à comprendre comment nous devrions fonctionner spirituellement parlant. Notre corps, toute notre personne, c'est comme une tour d'éolienne qui se plante dans le sol. Nous sommes plantés dans la création de Dieu. Nous faisons partie de cette création. Mais ça ne suffit pas pour produire de l'énergie. Il faut des pales, une turbine et du vent. Les pales qui tournent, ce sont les textes qui se trouvent dans la Bible. La turbine, c'est notre foi. Et le vent, c'est le Saint-Esprit. Il souffle sur les pales, sur les textes, paroles de la Bible, pour les actionner, les mettre en mouvement. Lorsqu'on dit que la Bible nous parle, en fait, on pourrait dire que le Saint-Esprit met en mouvement le texte dans notre petite tête. Mais ça ne produit pas encore de l'énergie. Il faut la turbine. La turbine, c'est notre foi. Le texte en mouvement se transforme en énergie lorsque nous faisons confiance à ce texte, lorsque nous l'écoutons, lorsque nous décidons de le mettre en pratique. Et pourquoi y a-t-il souvent si peu de production d'énergie amour? C'est simple. C'est que, comme pour l'éolienne, nous devons nous orienter dans le sens du vent. Ce n'est pas le vent qui s'oriente en fonction de l'éolienne, c'est le contraire. Si le chrétien ne s'oriente pas sur le Saint-Esprit, Il est immobile, spirituellement parlant. La Bible, dans les Actes des apôtres, parle également du vent en ces termes. Tout à coup, un bruit vient du ciel. C'est comme le souffle d'un violent coup de vent. Le bruit remplit toute la maison où ils sont assis. Alors ils voient apparaître des langues, comme des langues de feu. Elles se séparent et se posent sur chacun d'eux. Tous sont remplis de l'Esprit Saint. Et ils se mettent à parler d'autres langues. C'est l'Esprit qui leur donne de faire cela.
Merci Henri Bachier pour cette belle image. Je l'aime particulièrement, c'est vrai, parce qu'elle nous rappelle, l'éolienne n'est pas là pour souffler du vent, comme je l'ai laissé sous-entendre tout à l'heure, mais au contraire pour se laisser animer par le vent, se laisser toucher par le vent pour produire, pour donner de l'électricité. Mais c'est vrai que nous sommes invités, nous aussi, en tant que chrétiens, eh bien, à produire cette énergie amour et à transmettre cette énergie aux autres. En d'autres termes, nous sommes appelés à porter du fruit, un fruit qui demeure. Et puis, ça sera le thème, justement, de la prédication de Claude tout à l'heure, le fruit que Dieu attend de nous. Je ne sais pas si vous avez bien compris, les enfants, comment fonctionne cette éolienne, mais j'aime bien cette idée que les pales qui tournent, c'est en fait les textes bibliques qui sont animés par le vent, le souffle de l'Esprit, et qui vont nous mettre nous-mêmes en mouvement et nous permettre de donner. Et ça me permet simplement pour moi de redire combien c'est vrai, je trouve important que nous puissions faire découvrir à nos enfants ces textes bibliques, que nous puissions le plus jeune possible, le plus tôt possible, les aider à découvrir et à aimer la Bible, parce que c'est ces textes qui tout au long de la vie seront et pourront être animés par l'Esprit et mettre en mouvement et les amener à vivre cette vie chrétienne. Alors voilà, c'est vrai que ce ministère des pots du dimanche est un ministère très important. Nous voulons l'encourager, nous voulons les bénir, et c'est ce temps que nous voulons vivre maintenant. J'invite Roger à me rejoindre pour que nous puissions déjà savoir qui fait partie, qui anime ces pots du dimanche, prier pour eux et pour les enfants.
Voilà, je te laisse.
Merci Harry. Bonjour. Donc, le sujet, c'est comment être des ventilateurs chez nous. Et puis, donc, c'est Nicolas qui va venir donner un petit mot concernant l'engagement en faveur de nos enfants. Et puis, tu vas prier pour les enfants. Et puis, j'aimerais prier pour les parents. Et on va ensuite aussi prier pour les personnes d'une grande équipe engagée en faveur de nos enfants. Donc, d'abord, Nicolas, si tu veux bien venir, s'il te plaît.
Il y en a qui baille déjà, avant que je commence à parler. Il n'y a pas beaucoup d'enfants ce matin. En fait, c'est à eux que je voulais m'adresser d'abord. Parce qu'en fait, les vacances sont terminées et puis les choses sérieuses commencent. Est-ce que ça veut dire que l'école du dimanche, c'est quelque chose de sérieux? Oui et non. Si par sérieux, vous avez quelque chose de triste, de solennel, quelque chose où on s'ennuie, non, ce n'est pas quelque chose de sérieux. Si vous entendez par sérieux quelque chose qui est important, peut-être la chose la plus importante, c'est-à-dire de connaître Dieu, de connaître notre Sauveur, d'entendre parler de lui, alors oui, c'est important. C'est ça que je voulais dire d'abord. Et puis, en fait, nous, on est tous des moniteurs très motivés. Donc, on s'attend à ce que vous, parents, apportiez ces enfants, ameniez régulièrement. Parce qu'en fait, nous, le plus grand plaisir, c'est quand ces enfants, à la fin de l'heure, ils disent « c'est déjà fini ». Et ça arrive assez souvent, parce qu'on a toute une équipe qui est motivée et on veut s'occuper de vos têtes blondes ou noires ou n'importe quelle couleur. Donc, pour nous, c'est quelque chose de vraiment vital. Maintenant, je sais que pour les enfants, comme pour leurs parents parfois, c'est pas toujours très facile de se lever le matin, surtout le dimanche. Alors, est-ce que c'est les enfants qui doivent aider leurs parents à se lever pour qu'ils puissent aller à l'école du dimanche, ou le contraire, je pense que c'est d'une fois à l'autre un peu différent. Mais en fait, ce que je veux surtout dire, c'est que c'est Dieu lui-même qui vous invite, les enfants et les parents. C'est Dieu lui-même qui a du plaisir à vous voir ici, qui vous accueille. Donc venez, venez régulièrement.
Nicolas, tu vas prier.
Ah oui, c'est,
hein,
ça, oui. C'est juste, excuse-moi. Oui, Seigneur, nous voulons te remettre ce matin toutes ces petites enfants, toutes ces têtes blondes, tous ces enfants que tu nous confies, pour que vraiment nous puissions, par ton esprit, leur apprendre à te connaître et avoir l'amour que tu as pour eux, pour qu'ils puissent ressentir dimanche après dimanche cet amour que tu leur donnes, et puis qu'ils puissent te répondre par leur amour à eux. Amen.
Amen. Je rappelle également qu'il y a un temps de prière le lundi après-midi à 14h. Ça a repris ce temps de prière pour si vous êtes maman ou grand-maman ou simplement vous avez à cœur d'appuyer ce ministère en faveur de nos enfants. Lundi après-midi, 14h, dans nos locaux, un temps de prière. Donc le souci est la transmission. Et nous savons que la transmission n'est pas chose facile. Donc j'aimerais aussi prier pour les parents parmi nous, si nous pouvons encore nous incliner dans la prière. Notre Père Céleste, c'est toi-même qui désires voir les familles réunies en toi. Nous te bénissons pour les parents que tu nous as donnés, qui ont sans doute fait de leur mieux pour nous élever. Et nous te louons de ce que sur ce chemin, tu désires venir nous rencontrer quand nous sommes encore petits, pour nous parler de ton amour que tu as prouvé en Jésus. Nous prions pour cette tâche de conduire les enfants vers le Seigneur Jésus. Prions pour les parents, pour les amis des familles, pour les grands-parents, pour chacun de nous, Seigneur. Aide-nous à capter le vent de l'Esprit et le transmettre en amour en faveur de nos enfants. Amour qui puisse découvrir à sa source en toi. Veuille aider nos parents, Seigneur, dans cette responsabilité et les bénir richement au nom de Jésus. Amen. Puis nous désirons aussi découvrir qui sont les moniteurs qui se sont engagés en faveur de nos enfants. Et on aimerait aussi prier pour eux. C'est Myriam Muller qui va faire ça au nom du conseil. Mais d'abord, est-ce qu'on peut vous demander, moniteurs des différents groupes, de vous lever? On n'a pas demandé les enfants de faire ça. Mais... voilà. Alors Myriam, est-ce que tu veux bien venir et prier pour cette équipe qui est là dimanche après dimanche à instruire nos enfants?
Merci Seigneur pour cette communauté que nous formons. Conduire les enfants à toi, c'est un travail d'équipe. Et en tant que parents, nous ne sommes pas seuls dans cette tâche et les moniteurs non plus. Merci pour ces moniteurs qui s'engagent année après année auprès des enfants et qu'ils puissent être ces éoliennes fortement ancrées en toi, dans ta parole aussi, pour transmettre ce message, Seigneur, d'amour en faveur des enfants, qu'ils puissent donner soif de te connaître. Seigneur, nous aimerions aussi te présenter Prisca. Merci pour son engagement pendant toutes ces années. Et bénis-la richement et renouvelle sa flamme aussi en faveur de ce groupe de prière cœur de mère tous les lundis. Amen.
Voilà, alors Harry, je te redonne la parole.
Voilà, avant de laisser les enfants rejoindre leur moniteur, nous voulons entrer dans un temps de louange et chanter avec eux, en tout cas, un chant. Je vous invite à vous lever. Nous voulons célébrer ensemble notre Dieu à travers du 576 « Je loue ton nom éternel ». Peuvent rejoindre leur moniteur, monitrice pour ce premier pote du dimanche de l'année. Voilà, et pendant que les enfants nous quittent, je vous invite à poursuivre ce temps de louange. Nous voulons confesser que Dieu est à l'œuvre dans ce monde. Nous croyons que l'Esprit de Dieu agit partout et souffle sur toutes les générations, des plus jeunes aux plus âgés. Et nous voulons apprendre à toujours mieux discerner cette main de Dieu derrière les circonstances, circonstances de nos vies, circonstances du monde. Et nous voulons, au travers du prochain chant, nous ouvrir aussi à l'action de cet Esprit de Dieu. Nous ouvrir aussi à la reconnaissance pour tout ce qu'il fait et vouloir nous attendre à lui en toutes circonstances. C'était toi, le 982.
C'était toi, ce grand enfant ma voix, c'était toi, depuis le premier.
Seigneur Jésus, nous voulons te célébrer, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, car tu es celui qui a les paroles de la vie éternelle. Oui, Seigneur, où irions-nous d'autre qu'à toi, car c'est toi qui nous emmène avec toi jusque dans les lieux célestes, dans la demeure du Père. Merci pour cette parole, Seigneur, qui est vie, qui est force, qui est espérance, qui est paix, qui est joie. Merci, Seigneur, de nous permettre de toujours vouloir nous mettre dans le sens du vent de l'Esprit, afin que cette parole puisse être tout à nouveau animée et qu'elle puisse nous mettre en mouvement, nous mettre en route. Seigneur, ce n'est pas tous les jours évident que nous puissions nous détourner de mauvaises choses pour pouvoir vraiment nous tourner vers toi, Seigneur, et être animés de ta force. Seigneur, règne en nous. Nous voulons encore le chanter, te louer. Jésus, sois le centre. Je vous invite encore à chanter le 772. Ah pardon, règne en moi, excusez-moi, 821. Amen. Je vous invite à reprendre place, que nous puissions toujours choisir que le Seigneur règne en nous, que nous puissions être ouverts à sa parole. J'invite notre frère Claude pour la prédication. Je te remercie.
Frères et sœurs, en Jésus, je vous salue les uns et les autres. Plaisir de vous revoir. Et je vous apporte aussi les salutations des frères et sœurs de la communauté sœur de Lavigny. Quand j'ai lu l'historique de l'assemblée d'ici, l'église évangélique de Mérin, j'ai vu qu'il y a longtemps, plus personne n'est là pour vraiment en témoigner. En 1890 et quelque chose, il y a des gens qui étaient déjà vivants. Non, vous voyez, c'est bien ça. Il y a bien des aînés ici, oui, mais ça ne suffit pas. Il y avait des liens déjà avec Lavigny. Voilà, c'est comme ça. Quand on trouve un partenaire ailleurs, on a des liens. Vous avez passé un été autour de thèmes en lien avec des arbres, c'est juste? Et si on parlait du fruit? Et j'ai pensé que avant le lancement de nouveaux programmes annuels, eh bien, parler du fruit peut être une bonne idée. Un culte fruité, ça vous va? C'est une image, le fruit, d'accord? Ça fait référence à la semence. Et j'ai pensé que j'ai souvent dans ma voiture des petits évangiles. Ça a l'air de rien du tout. Il faut savoir lire, c'est clair, hein, que quand on le donne. Mais c'est comme une semence. Et Dieu sait où ça pousse et quand ça pousse, non ? Des fois, il suffit d'une référence à Jésus pour que quelque part, dans une famille et pour de nombreux descendants, une grâce s'exprime. C'est mystérieux, non ? Oui ? Et que votre fruit demeure. Qui est-ce qui a utilisé cette formule ? Ça veut dire, c'est Dieu, d'accord ? Et plus précisément, peut mieux faire. Alors, Jean, mais Jésus. Et que votre fruit demeure, ça veut dire dans la durée. Vous êtes d'accord ? Et la durée, c'est combien de temps ? Je me souviens, j'ai un grand-papa qui a souhaité que sur sa tombe soit gravé « Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. » Je me suis dit « Qu'est-ce qu'il en savait ?» Mais ça continue, oui, c'est vrai. Mais il faut de la grâce à chaque génération, non ? Eh oui, hein ? Et qu'est-ce qui convainc une génération que de suivre celle de l'autre ? Je pourrais poser la question inverse. Qu'est-ce qui empêche une génération de suivre le témoignage des parents ? Ça, c'est plus délicat. Hein ? C'est que vous et moi, on n'est pas impeccables, ou bien ? Ils auraient des griefs pour chaque génération, non ? De dire, eh, oh. Donc il y a quelque chose qui doit donner envie, qui porte le principe de la vie, qui fait que de génération en génération, les promesses de Dieu, certes, subsistent, mais quelque chose de convaincant. Vous savez, on vit une société aujourd'hui où quand ce n'est pas convaincant, ben, on va voir ailleurs, non ? Et des philosophies sur le marché des idées, il y en a plein. Bon, voilà, c'est le sujet. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir du bon fruit ? Une bonne semence. Si vous avez une semence de chardon, vous ne devez pas attendre d'avoir des ananas comme fruit, hein, c'est ça, hein. Ouais. Une bonne semence, c'est la nature de la plante, un bon arbre. Bon, le truc du chardon, hein, on est tous un peu chardon, non ? Un peu. De temps en temps, quand il fait très chaud et qu'on n'a pas assez mangé ou bu, ou qu'on n'a pas assez dormi, ou qu'est-ce qu'on peut encore mettre ? Il faut une bonne semence. Il faut une bonne terre, parce que la bonne semence sans bonne terre, ça ne dure pas longtemps. Hein ? Une bonne terre, c'est-à-dire qu'il y a un terreau fertile, oui. Et de temps en temps, si ce n'est pas assez fertile, il faut mettre un peu du fertilisant. Et puis, il faut des soins. Vous êtes d'accord que, mesdames, messieurs, si vous avez des plantes d'appartement et que vous ne les avez pas arrosées depuis 10 jours, là, en ce moment, bon, ça dépend de la plante, hein. Cactus, peut-être. Mais sinon, il faut de l'eau, il faut de la protection, il faut aussi de la patience. C'est combien de fois qu'on porte du fruit en général dans les plantes par année ? Une, deux, si ça va bien. Bon, on est loin de l'idée qu'ils porteront du fruit à chaque saison, hein ? Mais en attendant, oui, il faut un peu de patience. De même, pour le changement de mon tempérament et de mon caractère, il faut un peu de patience, hein ? La nouvelle naissance que j'ai vécue un jour, ça n'a pas changé magiquement les défauts de mon caractère. Hein. Il faut un peu de temps. Enfin, chez moi. Et alors, on peut s'attendre à du fruit. Mais le fruit restera encore un cadeau bien mystérieux. Hein. On n'a pas encore réussi à duplicater la vie. Ça vient peut-être, mais pas encore. Et le jour où ça va venir, je ne sais pas ce qu'on va en faire. Mais la vie, le principe même que je suis un fruit qui porte des semences de vie qui peuvent faire d'autres, c'est mystérieux à chaque coup. Alors, c'est la proposition Église évangélique de Meyrin, mes frères et mes sœurs, avec lesquels nous sommes en route. C'est d'entendre cette voix de Dieu, de dire « Ta vie, Église évangélique, comme toi-même, personne de tout âge, femme et homme, considère-toi comme une plantation, comme un verger du Seigneur. » Nous continuons et nous rappelons cette parole de Jésus. « Je vous ai choisi, dit Jésus à ses apôtres, pour que vous portiez du fruit. » Et le contexte, c'est le contexte de la vigne. On a la chance d'avoir des vignes pas trop loin. C'est moi qui suis la vigne, dit le Seigneur. Vous, vous êtes les sarments. Les sarments, vous savez, c'est ces tiges qui ne portent pas encore de fruits, mais potentiellement qui portent du fruit. Les sarments. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. J'ai entendu hier aux informations qu'une vigne peut porter jusqu'à 10 grappes. C'est pas mal, hein ? Un plant de vigne, 10 grappes. Wow ! Celui-là porte beaucoup de fruits. Et voici ce que dit Jésus, « Hors de moi, en effet, vous ne pouvez rien faire. » Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous, vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit subsiste, demeure, afin que le Père vous donne tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. Jusqu'à là, la parole de l'Évangile, vous voyez qu'il est question du fruit ici. Nous nous souvenons aussi de Jean le Baptiste, vous savez, qui voyant les gens venir à son baptême de repentance dans le Jourdain, il a repris quelques-uns en disant « Qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Portez donc du fruit ». C'est loin, l'école du dimanche, qui prouve votre repentance. D'accord ? La repentance en elle-même peut même être dangereuse si elle ne change pas la vie, vous saisissez ? On peut se dire, le but de la vie chrétienne, c'est la repentance et le pardon. Eh bien non, c'est le moyen. La repentance et le pardon, c'est le moyen que Dieu utilise pour réorienter nos vies. C'est quand même pas la même chose, vous voyez ? On risque de faire du rite le but, alors que le but, c'est la transformation de mon caractère à l'image de Dieu. Vous comprenez ça ? Mais alors, ça doit aller plus loin. Et j'ai pensé, en regardant ce thème, que la parole attend quelque chose qu'elle appelle le fruit, mais je risque un peu de me tromper. Je me souviens, étant jeune converti, on disait « le fruit, c'est le nombre de convertis suite à mon évangélisation ». C'est pas mal, non ? Non ? Et on commençait à dire « combien ?» Mais c'est pas faux. Sauf que le fruit attendu, nous allons le découvrir, c'est peut-être autre chose. Le fruit, c'est la garantie de la vie qui continue et se multiplie. On est d'accord ? Mais on n'a pas encore dit ce que c'est que la vie. Hein ? C'est le produit de la vie humaine. De toute façon, faites ce que vous voulez, ça produira du fruit. Juste à savoir quelle est la qualité du fruit. Je vous ai parlé du chardon au début. Ouais. C'est jolie plante, le chardon. Moi, j'ai rien contre, hein. Sauf que dans une prairie, ce n'est pas tout à fait utile pour les vaches. Donc, ça dépend à qui on demande. Et quel est le but ? Le fruit, ici, c'est autre chose. Ce que Dieu attend de son peuple. Donc, la question honnête de notre culte d'aujourd'hui. Simplement, c'est « Seigneur, qu'est-ce que tu attends de nous ?» Alors, on peut répondre de différentes manières. Mais c'est bien ceci qui est le sujet de notre réflexion d'aujourd'hui. Quel fruit Dieu attend-il de son peuple? Vous connaissez ce fruit-là? Amende. Il peut y avoir des amendes douces et des amendes... Vous avez déjà mangé une amande amère? Pour ceux qui ont mangé vraiment une amende amère, ils se souviennent. Hein. Et après, ils sont un peu plus prudents. Seigneur, qu'est-ce que c'est qu'une amende douce, hein, notamment? Qu'est-ce que c'est qu'un fruit pourri? Et qu'est-ce que c'est qu'un fruit agréable et utile? On vient en arrière. J'essaye de m'approcher de cette attente de la définition du fruit. Lorsque Moïse dit à Dieu dans le livre des Exode, chapitre 33, et je lis des extraits 33 et 34, « Fais-moi voir ta gloire !» Le Tout-Puissant déclara « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. » Donc même si vous me dites « Moi, le fruit attendu, c'est la gloire de Dieu dans ma vie », vous n'avez pas encore dit ce que c'est que la gloire de Dieu dans votre vie. Je connais même des gens, ils sont prêts à tuer pour la gloire de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Et il n'y a pas que les certains musulmans. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est quoi la gloire de Dieu? C'est Calvin qui nous a appris, le réformateur, tout pour la gloire de Dieu. Et il a raison, mais qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu? Quel est le fruit concret? Fais-moi voir ta gloire. Le Tout-Puissant déclara, je ferai passer devant toi toute ma bonté. L'Éternel passa devant Moïse et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté, en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. » Certains d'entre vous qui connaissent la parole de Dieu peuvent dire « ça ne s'arrête pas là ». Vous avez raison. Il reste juste en étant bon, mais il est d'abord amour. Avant toute autre chose, il est un être, quand il est saint, il est amour. On pourrait continuer. C'était le fruit que Dieu attendait. En fait, être reflet de Dieu, c'est le fruit attendu. Je suis saint en amour, vous serez saint en amour. Je suis juste, vous serez juste. Je suis miséricordieux, vous serez miséricordieux. Vous comprenez? C'est le premier fruit. Voici. Être image de Dieu, c'est le fruit attendu. Rien d'autre. Alors, bien entendu, tout dépend quel est le Dieu que l'on adore. Nous sommes largement déterminés dans notre vie par ce que nous adorons. C'est la raison pour laquelle venir ici, c'est tellement important. Nous recentrer ce que nous adorons, ce qui est number one dans nos vies. Et il y a un drame dans les Écritures, je vous en fais juste la lecture, vous savez, quand on clique sur un mot comme « fruit », tout d'un coup, il y a un monde qui s'ouvre, et dans ce monde, il y a quelque chose que j'ai choisi pour vous, qui est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 5. Écoutez, c'est un drame. Écoutez bien le cœur de Dieu pour sa vigne. On ne quitte pas le sujet, d'accord? Écoutez la déception de Dieu par rapport à son peuple. « Laissez-moi, je vous prie, dit Ésaïe, chapitre 5, « Chantez pour mon ami !» Donc c'est un chant qui n'est pas un chant de joie. Écoutez bien. « Le chant de mon bien-aimé pour sa vigne. » Ça pourrait être quelque chose de beau, mais c'est une tragédie. « Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en travaillait la terre, ôta les pierres. Il y planta un cépage de choix. » Ce n'est pas du chardon. « Il bâtit une tour au milieu d'elle pour protéger. » Il creusa aussi une cuve pour les moments de sécheresse. Il espérait qu'elle produirait des raisins. Non, il n'a pas le droit. Je ne sais pas pourquoi vous travaillez, mais jusqu'à là, c'est très beau. Regardez la suite. Mais elle produit des fruits puants, enfin mauvais. Hein. Ça dépend de la version. Il y a une version seconde, moderne, qui dit puant. Suite, verset 4, Ésaïe 5, Nouvelle Bible Second. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi? Ah, c'est Dieu qui pose des questions. Il a des fois des questions, il n'a pas de réponse. Il n'y a pas que nous. Hein. Lui aussi. Écoutez, pourquoi? Quand j'espérais qu'elle produirait des raisins, elle a produit des fruits purs ou mauvais. Vous avez une réponse? Dieu espère, c'est drôle, hein? L'espérance de Dieu. Écoutez la suite. J'en arracherai la haie. La haie, c'est ce qui protège contre les biquettes autour pour qu'elles ne mangent pas la vigne, d'accord? Pas que les biquettes, d'ailleurs. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit dévorée. J'ouvrirai des brèches dans sa clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni sarclée. Les ronces et les épines y croîtront. Je donnerai mes ordres aux nuages afin qu'ils ne laissent plus tomber la pluie sur elle. Or, la vigne du Seigneur, des armées, c'est la maison d'Israël et les hommes de Juda. C'est le plan qu'il chérissait. Et voici une des définitions du fruit attendu. Il espérait l'équité. Vous avez ça? C'est quoi l'équité? C'est une certaine forme de redistribution pour que tout le monde ait assez. Vous êtes d'accord? C'est assez économique là, hein? Ça veut dire qu'il n'y a personne de trop, d'accord? Il n'y a pas des gens qui meurent parce qu'ils ont trop et des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas assez. Ils espéraient l'équité et voici le crime, c'est-à-dire les riches mangent les autres, prêts à faire des exactions pour en avoir plus. Donc ici, le fruit a un rapport avec quelque chose qui est en nous, qui s'appelle ne jamais avoir assez. Vous avez un mot pour ça? L'égoïsme, l'avidité, l'insatisfaction, la volonté de remplir quelque chose en nous. Et il espérait la justice. Et voici les cris des victimes. Et on a l'impression que rebelote, cette fois-ci, ce n'est pas les Égyptiens qui ont fait des exactions, mais c'est le peuple de Dieu lui-même. Vous saisissez? Et moi, je suis troublé par des paroles aussi claires. Maintenant, il n'y a pas que des histoires comme ça dans les Écritures. Regardez par exemple un autre prophète. On quitte Ésaïe, on va voir Osée. Israël était une ville, une vigne luxuriante. Il produisait du fruit. Plus son fruit était abondant, plus il a multiplié les autels. Et cette fois-ci, on quitte la dimension de l'économie, on va vers le religieux, n'est-ce pas? Plus on est dans l'abondance et l'opulence, plus on fait du religieux quelque chose de manipulable, les autels. Plus son pays était beau, plus il a embelli les pierres levées. On revient à Ésaïe, Ésaïe 3, verset 14. Le Seigneur entre en jugement avec les anciens de son peuple. Ça, c'est les chefs, hein, c'est les bergers, ce sont les pasteurs, ce sont les politiques qui étaient dans le temps très proches les uns des autres, puisque c'était la loi du Seigneur que les uns et les autres étaient censés faire et enseigner. Vous avez dévoré la vigne. C'est drôle. Le « vous » montre des niveaux de responsabilité de quelqu'un qui n'arrive pas à la loi profonde du Seigneur, le fruit attendu, mais il est dans la dérivation d'autre chose. Et il dit, ce sont les biens dont vous avez dépouillé le pauvre qui remplissent vos maisons. Vous voyez cette histoire d'accumulation que l'on retrouve, de non-redistribution, de non-volonté de tenir compte du besoin réel du prochain. Alors, je ne sais pas tout ce qui passe par vos esprits en lisant ces passages-là. Ce serait intéressant d'en parler. La bénédiction n'est pourtant pas à son terme. On voit des prophètes comme Ézéchiel qui disent « Dans l'avenir, que Jacob prenne racine. » Israël poussera des bourgeons et des fleurs et remplira le monde de ses produits. Dans Ésaïe 60, c'est la fin du livre d'Ésaïe. Telle une vigne replantée par Dieu, ton peuple, rien que des justes, possédera le pays à jamais. Rejetons de mes plantations, œuvre de mes mains, pour me glorifier. Donc, il y a quelque chose dans le plan de Dieu qui est de l'ordre de la restauration. Et nous pouvons en être des bénéficiaires par le Messie Jésus. Nous sommes des replantés, nous sommes des rejetons, parce que nous avons été greffés. On y vient ? Regardez, on saute dans le Nouveau Testament. Quand l'apôtre Paul, dans les Corinthiens, leur dit « Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la libération. » Le mot « liberté » me paraît moins adéquat que « libération ». Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur en connaissant Jésus, nous sommes transformés en la même image. Comment dire ? Il y a ce sérieux du langage du Nouveau Testament où la parole, mais le Saint-Esprit opère en nous cette restauration. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit Saint. On trouve ce vocabulaire là. Je vais vous raconter une histoire bientôt, juste montrer un dilemme. Seigneur, je t'ai entendu. Je veux te laisser me transformer, oui, mais ton truc du fruit de l'esprit, qui consiste en restituant à moi l'amour du prochain, la justice qui restaure, le shalom qui fait qu'on est heureux de vivre, la joie, la douceur, Seigneur, tu me connais suffisamment, vraiment t'es sérieux avec moi ? Vous voyez un peu le dilemme. Eh bien oui, le Seigneur est sérieux et il sait très bien qu'on ne sera pas impeccable. Mais il n'en demeure pas moins vrai qu'il nous demande d'être sincères et ouverts à l'Esprit qui nous oriente à tous les âges et à toutes les époques de notre vie. Oui, vous connaissez ce passage. Le singulier fruit de l'Esprit Saint. À quoi on reconnaît quelqu'un qui est rempli de l'Esprit ? C'est pas d'abord à ce qu'il dit. Bien entendu, la bouche parle de l'abondance du cœur, pas seulement à ce qu'il ressent, mais à ce qu'il exprime dans sa vie. La réorientation du Saint-Esprit, la replantation du Saint-Esprit, qui donne la vie au rejeton sauvage que j'étais sur le tronc d'Isaïe, le père de David, héritier des promesses. L'Esprit Saint nous a choisis pour que nous portions encore du fruit. Le fruit de l'Esprit est d'abord, et puis nous l'avons entendu dans l'épisode du petit film de tout à l'heure avec l'éolienne, s'exprime par l'amour de tous, par la joie, par la paix, la patience, la bonté. Et la bienveillance, et je peux faire des progrès. Et la fidélité, et la non-violence, ou la douceur, et la maîtrise de soi. Ce fruit n'est pas celui de l'effort humain. Pas que ça. Pour s'améliorer, mais celui de l'habitation consciente du Saint-Esprit. Et en la matière, nous sommes tous charismatiques. Je vous raconte une histoire, parce qu'il paraît que les histoires, c'est ce qu'on retient. Un amandier sauvage avait poussé au hasard tout contre un grand mur. Il était d'abord un petit buisson, un amandier sauvage contre un grand mur. Puis, cet amandier sauvage a grandi et il était devenu un arbre vigoureux. Il se demandait souvent « Qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière ce grand mur ?» Le vent lui apportait des parfums délicieux. Il devinait là, tout près, un monde merveilleux derrière le grand mur, mais comment y entrer ? Un jour, enfin, il devint l'amandier assez grand pour voir par-dessus le mur. Et quel ne fut pas son émerveillement en contemplant de beaux parterres de fleurs illuminées par le soleil, des allées ombragées, un magnifique verger. Plus le jeune arbre admirait le jardin et respirait ses parfums agréables, plus il avait envie d'y aller. Un jour, la porte du jardin s'ouvre et quelqu'un entre en tenant à la main une petite plante qu'il avait prise dans les prés. Il choisit un endroit pour le replanter dans son jardin. « Ah !» se dit l'amandier, « toutes ces plantes ont été apportées du dehors. Moi aussi, je pourrais peut-être aller dans ce beau jardin. Mais comment faire avec mes branches noueuses et avec mon tronc tout tordu ? Je suis trop laid !» Peut-être que si j'essayais de me redresser, me donnerait-on une place là-bas parmi les beaux arbres ? Alors, il se met au travail et fait de son mieux pour redresser son tronc, étendre ses branches et se faire le plus beau possible. Vous y êtes ? Le propriétaire du jardin ne remarquait rien. Mais il pensait que peut-être me remarquera-t-il bien. Mais l'homme passe presque sans s'arrêter, jetant à peine un coup d'œil sur lui. Bien sûr, il a grandi, mais où est son fruit ? Se dit le propriétaire. Ah, c'est du fruit qu'il voulait. Eh bien, je vais en produire. Se dit l'amandier sauvage, et à la saison suivante, le voilà couvert d'amandes. Mais des amandes amères et rabougries. L'arbre est sauvage et son fruit aussi, alors l'amandier perd courage. À quoi bon m'être fatigué à produire des fruits ? Ce que je fais ne sert à rien. Et il laissa tristement pendre ses branches. Alors le maître s'approche et lui dit, « Jeune amandier, veux-tu une place dans mon jardin ?»« Ah oui, dit l'amandier. Oh, j'ai fait tant d'efforts pour y arriver, mais mes amandes sont amères, Seigneur. Il n'y a qu'un moyen pour toi d'entrer dans le jardin, c'est, jeune amandier, d'être greffé. Débarrassé de toutes tes branches, on peut même les mettre au feu. Débarrassé de toutes tes branches qui porteront du mauvais fruit. Mais qu'est-ce que c'est qu'une greffe ? Je vais t'expliquer pour le jardinier. Il s'agit de couper les parties d'un arbre sauvage comme toi et de placer sur ce qui reste des tiges, la pousse d'un autre arbre capable, elle, de produire de bons fruits. Au-dessous de la greffe, il reste un arbre sauvage qui ne peut rien produire de bon. En revanche, au-dessus, l'arbre produira de bons fruits. Mais alors, il ne restera rien de moi. Il ne restera pas grand-chose, mais tu resteras toi. Mais voici plutôt ce que je ferai pour toi. Je te donnerai une nouvelle nature. Tu porteras des amandes douces et tu prospéreras alors dans mon jardin. L'amandier sauvage accepta et devint un bel arbre chargé d'amandes, mais délicieuses. As-tu compris mon histoire ? La régénération des vieux amandiers ou des amandiers qui ne portent pas du bon fruit, Christ vit en moi, vous en moi et moi en vous. On y est. Ne déconnectons pas notre vie du Seigneur Jésus. Individuellement et collectivement. Et le Seigneur ne nous demandera pas d'être impeccable. Tu resteras toi, mais il fera son œuvre en nous. Que nos programmes de l'année également expriment cela. Celui qui demeure en moi comme moi en lui, portera pour 2016-2017 aussi le fruit qu'il attend à tous les âges de la vie. Et j'aimerais conclure, quelques conclusions. Le fruit, c'est pas d'abord un nombre de convertis, même si que Dieu nous fasse la grâce qu'au travers de notre vie, une personne puisse recevoir l'évangile du Seigneur. Pas non plus que la louange des lèvres, parce que ce sont les lèvres. Pas non plus même les rites de la repentance, parce que ce sont que des rites. Mais que notre fruit soit d'abord la restitution en nous de l'image du Père par Jésus. Dieu est amour et vérité. On se convertit alors du Dieu pour nous à nous pour Dieu. Sans la sanctification, personne ne pourra voir le Seigneur, nous dit le Nouveau Testament. Et c'est juste une manière de le redire. C'est l'Esprit Saint qui opère en nous la transformation, le bon fruit et le résultat de la communion active avec le Seigneur. C'est moi qui vous ai choisi, dit Jésus. Laissez-vous le redire. C'est moi qui vous ai choisi, dit Jésus. Et instituez pour que vous alliez, que votre fruit demeure. Et que votre fruit demeure. Alors dans la communion avec Jésus et son peuple, soyons réorientés régulièrement dans le cadre de nos rencontres, mais aussi d'une vie avec le Seigneur, au contact de sa parole et de son esprit, et que nous portions alors les marques de son esprit. L'effet de ce fruit représente, à ne pas douter, pour notre société d'aujourd'hui, quelque chose d'attractif. Quelque chose de fécond. Alors, grand-maman, grand-papa, au cas où tu l'es, potentiellement, et si vous n'avez pas de petits-enfants ou d'enfants, la fécondité en vous, vient aussi du fait que quelque chose en vous, écrit par le Seigneur, reflète qui est le Seigneur. À un moment donné, nos contemporains ne pourront plus écouter le message, parce que des messages, il y en a dans tous les sens, mais ils pourront voir quelque chose du message. Que Dieu nous fasse la grâce qu'au travers de nous, eh bien, sa grâce s'exprime au travers de fruits qui reflètent qui il est, l'Éternel, Dieu miséricordieux et juste. Pour le temps de prière, pensons à l'orientation de notre vie individuelle, mais aussi collective, de cette année en tant qu'Église évangélique de Mérin, en tant que lieu particulier où je suis actif et où personne d'autre de l'Église n'est actif, dans ma constellation familiale, dans ma situation de vie et dans mon quartier. Le fruit du caractère de Dieu en nous et entre nous, et qu'ensemble nous reflétions un mode de vie qui glorifie Dieu, dans ce que nous faisons et organisons. Amen. On laisse la place à la prière. Je t'ai choisi. Afin que tu portes du bon fruit et que ton fruit demeure. Seigneur de grâce, nous aussi, comme les apôtres, nous voulons nous ouvrir à toi. Permets que dans l'Église, dans ce qui se fait en ce moment à l'école du dimanche, parmi les jeunes, parmi les aînés, les adultes en situation active, chez les personnes qui sont dans la marge également, ceux qui sont dans une souffrance particulière, nous puissions manifester le bon fruit que tu attends de nous pour notre temps. Nous nous ouvrons à toi, Saint-Esprit de Dieu, afin que tu éveilles en nous ce désir de porter du fruit, et de mieux en mieux, aujourd'hui et par ta grâce, nous te remercions d'être à l'œuvre et de nous avoir choisis dans ta vigne. Amen.
Merci à notre frère pour cette prédication, et c'est en portant cette réflexion que nous voulons passer et prendre la scène et partager la scène ensemble. Jésus nous a été rappelé, Jésus nous dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Et c'est dans cette union à Christ que nous pouvons porter du fruit, un fruit qui demeure. Et c'est bien là le sens de la scène que nous voulons partager, c'est confesser que nous pouvons être unis à Christ jusque dans l'éternité pour porter un fruit qui demeure. Et c'est bien ce que nous rappelle ce texte que j'aimerais vous lire en introduction à la Sainte Cène, juste avant que nous chantions un chant. Un texte que l'on trouve dans Romains, chapitre 6, versets 20 à 23, qui nous dit ceci. « Lorsque vous étiez encore esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Or, quel fruit portiez-vous alors ? Des actes dont le seul souvenir vous fait rougir de honte aujourd'hui, car ils conduisaient à la mort. Mais maintenant, affranchis du péché et devenu esclave de Dieu, le fruit que vous portez, c'est une vie sainte, et le résultat auquel vous aboutissez, c'est la vie éternelle. Car le salaire que verse le péché, c'est la mort, mais le don gratuit que Dieu accorde, c'est la vie éternelle, dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. » Oui, le don gratuit, Claude nous l'a rappelé juste tout à l'heure, ce n'est pas par nos efforts que nous parvenons à vivre cette union dans le Christ et les fruits qui en découlent, mais c'est bien par un cadeau immérité que nous recevons cette grâce que de pouvoir partager cette vie du Christ et être transformés à son image. Alors oui, nous sommes invités à nous tourner vers le Christ, à nous laisser porter par sa vie, à nous laisser toucher et entraîner par le vent de l'Esprit. Et avant de partager la scène, je vous invite encore à vous lever pour chanter le 522 « Avec ton esprit ». Merci aux musiciens de nous accompagner. Prendre place. En participant à ce repas de la scène, en mangeant de ce pain, en buvant de ce vin, nous nous souvenons que Christ est mort pour nous. Nous confessons qu'il est ressuscité et que nous vivons avec lui. Et nous avançons, portés par le souffle de l'Esprit, unis à Christ, pour témoigner de la vie de Dieu en nous, et cela quelles que soient nos circonstances de vie. Au cours du repas, Jésus prit du pain, Et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea en morceaux. Puis il les donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous. Ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. »
Rendons grâce au Seigneur. Tu es venu pour inaugurer le royaume de Dieu. Seigneur Jésus, grâce à toi, nous avons le pardon de nos péchés, l'accueil auprès du Père et l'Esprit qui nous est versé en nous. Merci de pouvoir anticiper ce qui un jour sera à grande échelle, ici, à l'échelle de nos vies, où tu as commencé ton œuvre, Seigneur. Merci de pouvoir le faire en communion avec tous nos frères et nos sœurs. Mystérieusement avec ceux qui sont auprès de toi déjà, et mystérieusement aussi avec ceux qui sont dans le monde entier, qui sont au bénéfice de ta grâce, de ta restauration, de ton œuvre, et concrètement ici, sur le plan local, avec tes enfants. Merci Seigneur de présider toi-même l'accueil à la table qui anticipe le festin de joie qui un jour sera à grande échelle. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, d'avoir scellé, d'avoir fait ce pacte par ton œuvre à la croix. Alléluia. Amen.
Voilà, j'aimerais demander à trois personnes de venir m'aider pour distribuer le pain et le vin. Je rappelle qu'au centre des plateaux, vous avez du jus de raisin pour ceux qui ne souhaitent pas prendre le vin. Et puis, il y a aussi une coupe pour ceux qui désirent boire à la coupe. Merci simplement de me faire signe et je vous la porterai. Restons dans cette méditation que nous avons entendue, dans ces paroles de vie que nous avons entendues. Et pour celles et ceux qui le désirent, apportez une prière librement, soyez libre de le faire volontiers. Nous te rendons grâce, Seigneur, et te remercions pour le privilège que nous avons de partager ensemble ce pain et ce vin. Nous demandons que ce repas de scène soit pour nous une occasion de restauration, une occasion de rafraîchissement, une occasion de renouvellement de nos forces pour ce qui est en vue devant nous dans cette semaine qui vient. Que nous puissions, Seigneur, ne jamais oublier que sans toi, nous ne pouvons rien faire et que c'est vraiment unis à toi que nous pouvons faire face à toutes nos circonstances de vie et plus encore que nous pouvons porter un fruit qui demeure, un fruit qui ne soit pas pur mais qui soit bon, bon pour nous et bon pour tous ceux qui nous entourent, bon pour ce monde qui en a tant besoin. Merci de ta grâce, Seigneur. Nous voulons nous attendre à toi et te bénir dans le nom de Jésus. Amen. Nous arrivons au temps de l'offrande que nous voulons récolter et profiter encore d'acclamer notre Seigneur et de proclamer qu'il soit le centre dans un choix de notre part tout au long de nos journées, que Jésus soit le centre de nos vies. Je vous invite à vous lever pour chanter le 772 et nous allons passer les sachets pour l'offrande. Seigneur, nous te disons merci pour cette offrande que nous pouvons récolter dimanche après dimanche. Donne-nous, Seigneur, de comprendre que cet argent n'est pas le but en soi, mais un moyen pour soutenir la mission, pour soutenir nos activités d'église, pour soutenir toutes nos entreprises afin de faire connaître l'Évangile autour de nous. De nous, Seigneur, un cœur généreux. Et nous te prions pour que ceux et celles qui vont utiliser cet argent puissent le faire avec discernement et avec sagesse. Amen. Je vous invite à reprendre place. Le temps de quelques annonces, c'est Roger qui s'y colle. Merci, Roger.
Voilà, pour nos annonces... assez nombreuses. Je dis d'abord les activités qui reprennent. Vous les aurez dans le mémo si vous n'arrivez pas à tout retenir. Donc le mémo pour le mois de septembre sera à disposition. Mais je rappelle brièvement, ce mardi, notre rencontre mensuelle de prière, et j'ai mis « Et pourquoi pas vous ?» On prend le temps de prier les uns pour les autres, mais aussi pour notre monde en détresse, pour nous envoyer, mardi 20h15 ici. Samedi prochain, c'est le free time qui reprend, c'est pour les jeunes adultes à la pélisserie, 18h30, avec un repas ou 20h pour l'enseignement, question Israël aujourd'hui, quelle place dans le plan de Dieu ? Avec Stephen Pacht. Dimanche prochain, ça a été dit, culte de reprise et sera suivi d'un repas canadien. C'est le moment de passer du temps les uns avec les autres. Jeudi 8 septembre, c'est le jeudi jeune genevois et il y a Nicky Cruz qui sera à Genève. Alors, vous avez pensé qu'il était mort et enterré depuis des décennies? Non? Il est toujours vivant, 77 ans, paraît-il toujours plein de feu pour partager l'évangile. Jeudi du jeune genevois, le projet c'était que ce soit à la cathédrale de Genève, mais c'est à confirmer le lieu. Je ne sais pas s'il y a plus de renseignements. Le samedi 10, donc toujours dans l'idée de ce moment jeune genevois, mais c'est le samedi 10 septembre, nous désirons vivre un temps d'échange et de prière le samedi matin, 9h30, 11h30. Le groupe Mouvement, quelles sont les suites pour notre Église? Donc ce serait un temps où on peut s'exprimer et on va aussi prier que le Seigneur nous oriente dans cette année qui s'ouvre devant nous. Je rappelle également, ou je vous annonce, le samedi 17, c'est sur le tableau où il y a un minimum d'informations, donc consultez ce tableau, retravaillez. Apprendre le français aux étrangers. C'est de 9h à 14h, samedi 17, avec quelqu'un qui est expert dans la matière de la mission Wycliffe. Donc, si ça peut vous intéresser, adressez-vous à ma femme Dominique. Donc, les informations sont sur le tableau. Et plus des informations un peu plus intimes, je rappelle le mariage de Sophie Lambert avec Clément Bourgeois, samedi 17, l'après-midi. Vous avez juste le temps de faire les deux choses. Se faire baptiser, il y a eu des annonces avant l'été. Maintenant, nous passons aux actes. Il y a 4 personnes qui ont manifesté leur intérêt. Je vous demande de me retrouver à l'issue du culte et nous allons vers des dates où on va se retrouver ensemble. Si c'est encore une question que vous avez, le baptême, est-ce que ça peut me concerner? Pourquoi se faire baptiser? Ce groupe est aussi pour vous. Ce n'est pas un engagement à se faire baptiser, c'est premièrement l'opportunité de découvrir ce que c'est le baptême. Nous avons les salutations d'Aurélie Jeunecamp qui nous a envoyé une jolie carte postale. J'espère que vous allez tous bien. J'ai déjà fait la moitié de mon voyage à Madagascar et presque chaque journée me réserve de belles surprises. Bien que le M me manque, j'ai la chance d'avoir trouvé une superbe église et d'y rencontrer plein de gens géniaux et des missionnaires. N'hésitez pas à aller voir mon blog pour savoir davantage sur ce que je fais et ce que je vis. À bientôt, Aurélie. Il y a les petites cartes. Moi, je suis arrivé à aller sur son blog, donc vous pouvez aussi. Et puis, en dernier lieu, nous exprimons notre sympathie à Jessica Dupertuis, qui a perdu son papa juste après avoir été aux États-Unis. Lors de son retour, elle a appris le décès de son papa. Nous disons à Jessica notre sympathie. Tu peux le dire haut et fort.
Nicky Cruz, c'est le 8 septembre à 18h30 à Ramada La Praille.
Nicky Cruz, donc le jeudi du jeûne, le 8, à l'hôtel Ramada à La Praille, 18h30, donc c'est tôt, merci beaucoup. Nous allons afficher ça pour la semaine prochaine.
à la fin de ce culte. Voilà. Je vous invite à vous lever. Nous demandons la bénédiction du Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent dans l'Église dispersée, qu'il nous renouvelle, que le Dieu de l'espérance nous remplisse de sa joie et de sa paix dans la foi. Allons avec lui. Amen. Bon dimanche aux uns et aux autres.